et les mails, me direz-vous. Eh bien, en voici un de Pascal à propos de l'intime. Parler, dire, confier, oser un pas plus loin que sa peur en divulguant un peu de notre monde intime. Je pense que notre conscience se fige dans l'idée de trop se dévoiler ou de dire les mots qu'il ne faut pas, ou pire, d'être jugé et condamné. Cela entrave notre désir de partager ce qui pèse en nous. Pourtant, il est tellement plus apaisant de se libérer de ce qui est si lourd à porter seul. Les solutions viennent de notre courage à oser demander de l'aide. Il n'y a pas de petite ou de grande souffrance. Il n'y a que ce qui nous empêche d'avancer. Faire confiance est un risque, tout comme de se lever le matin. Bonsoir François Cachou.
Bonsoir Jean-Marc Richard.
Quand vous entendez « faire confiance est un risque, tout comme se lever le matin », ça doit résonner en vous, vous qui êtes l'auteur de « Explorer l'intime au cœur de nos jardins secrets » aux éditions La Source Vive. Vous êtes philosophe, François, et vous avez réfléchi à travers aussi la philosophie, à l'intime. Mais avant de parler de ça, je voudrais qu'on évoque ce que P a évoqué dans son message qu'elle a envoyé par mail et que nous avons relayé sur la page RTS, Ligne de cœur, la page Facebook. Un viol, en quelque sorte. Un viol de son intimité. Et vous le dites dans votre livre, à un moment donné, quand on touche à l'intimité, à cette forme d'intimité-là, c'est l'intimité psychique qui est touchée. Et donc, on refoule et on maintient en plus profond de soi son intimité. Et c'est difficile d'en parler. Vous, vous préconisez de parler de l'intimité pour la définir, peut-être de l'explorer ainsi à travers les mots, à travers l'expression.
Oui, j'ai essayé au fond dans ce livre où j'ai voulu choisir la forme dialoguée pour rendre le texte plus accessible aux lectrices et aux lecteurs. J'ai voulu au fond essayer d'explorer pour comprendre. Qu'est-ce que c'est, au fond, l'intimité ? Est-ce que ce n'est pas, finalement, ce qu'il y a de plus précieux en nous ? Et ce qu'il y a de plus précieux en nous, peut-on le dire ? Je pense, avoir découvert un peu en travaillant ce sujet, que c'est difficile de parler de l'intime. Pourquoi ? Parce que une des caractéristiques premières de l'intimité, c'est qu'elle est retirée en nous. Elle est cachée, elle est secrète, elle est parfois même enfouie, elle est même, à la limite, inconnaissable à nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que, comme Freud l'a montré, il y a toute une part d'inconscient en nous qui masque ce qu'est finalement notre vie profonde. Et notre vie profonde, c'est notre vie intérieure, et on peut dire que l'intimité, c'est le lieu le plus profond de notre vie intérieure. Alors, je dirais en même temps que si on creuse un peu, c'est aussi ce qui nous appartient absolument. Si nous posons la question, qu'est-ce qui fait de notre moi une personne comparable à nul autre, une personne singulière qui fait que nous sommes nous-mêmes, je répondrais, c'est l'intime. Parce que l'intime fait que nous sommes des êtres uniques. Et donc, il y a comme un paradoxe. D'un côté, l'intime, c'est ce qui nous appartient absolument. Si l'intimité est violée, et on va prendre l'exemple du viol comme vous l'avez suggéré, si l'intimité est violée, alors c'est notre dignité qui est atteinte profondément. Et donc, ça veut dire qu'il y a en nous comme une, je parlerai un peu comme Saint-Exupéry, une sorte de citadelle inexpugnable de notre moi profond. Et ce moi profond, on ne peut pas l'investiguer du dehors. Même si vous vivez avec un compagnon ou une compagne pendant de nombreuses années, comme un couple uni, vous ne pouvez jamais pénétrer l'intimité de l'autre parce que vous ne pénétrez jamais de l'extérieur une conscience intime. Nous sommes profondément seuls et uniques avec notre conscience intime.
François, il y a une question qui nous parvient par SMS et qui dit en substance ceci, je vous la lis, jusqu'où sommes-nous prêts à partager cette intériorité profonde ?
Alors je dirais que nous sommes prêts à la partager à une première condition, qu'on reconnaisse la dignité de l'autre. Je prendrai l'exemple de cette dame qui vous téléphonait tout à l'heure et qui s'appelle Chantal, qui rencontre une personne dans la rue qui pleure, et puis elle s'arrête et elle lui demande « Mais pourquoi pleurez-vous » et il ne répond pas. Une sorte de pudeur de l'intimité qui fait que il a honte de pleurer. Et finalement, elle parvient à lui faire dire, parce qu'elle insiste, parce qu'elle veut faire quelque chose pour lui, il lui dit qu'il a honte parce qu'il a faim. Je trouve cet exemple extrêmement révélateur de ce monde secret qui est en nous et qui est le privilège de notre dignité personnelle. Quelle que soit, au fond, notre condition.
Même s'il n'y a pas de clé à tout cela, comment explorer notre intime ?
Comment l'explorer ? Je dirais qu'une distinction facile à faire pourrait nous aider. La distinction entre un objet et un sujet. Nous ne sommes pas des objets, parce que si on nous traite comme des objets, justement, notre intériorité est blessée. Qu'est-ce qu'un objet ? C'est toujours quelque chose qui est complètement extérieur à nous, qu'on peut observer, qu'on peut mesurer, qu'on peut calculer. Mais notre âme, notre psychisme, notre conscience, on ne peut pas la mesurer de l'extérieur. Parce que nous ne sommes pas des objets, nous sommes des sujets, c'est-à-dire des personnes qui ont une valeur. Et cette valeur doit être, au fond, reconnue.
Donc, par soi-même ou par les autres par...
Alors, par les deux, parce que cette reconnaissance demande une écoute de l'autre, au sens où, comme cette dame que je citais tout à l'heure et qui vous a téléphoné, elle se met à l'écoute de ce garçon qui pleure parce qu'il a faim, et cette écoute lui permet d'exprimer sa souffrance. Et après, elle va lui acheter de quoi manger. Il est soulagé dans sa souffrance parce qu'il a été reconnu. Autrement dit, prononcer ce mot reconnaissance signifie que tout seul, nous pouvons très bien, évidemment, parce que nous avons une certaine idée de nous-mêmes, nous reconnaître, mais nous reconnaître demande qu'un autre voit en nous qui nous sommes pour reconnaître notre valeur.
François, je vous interromps pas, mais il y a un message qui est arrivé et qui fait écho à ce que vous venez de dire. Quelqu'un dit « Il y a des gens qui ont un besoin de reconnaissance qui est pathologique et qui est immense. » Est-ce que ça cache pas autre chose et est-ce que ça rend pas impossible l'amour de soi ?
Vous posez là une très grave question.
Oui, c'est une question liée à l'intime, justement.
Non, je crois.
C'est ça, l'amour de soi, c'est le révélateur.
Le mot « amour » me paraît évidemment une clé importante, parce qu'après tout, si je me mets à l'écoute d'une autre personne qui souffre et dont l'intimité ou la dignité est blessée, je la reconnais en lui donnant une reconnaissance d'amour. Il ne s'agit pas d'amour amoureux, mais d'amour comme vouloir le bien d'autrui. Je définirais l'amour ainsi. C'est toujours vouloir un bien. Alors si c'est vouloir mon bien à moi pour mon plaisir au sens purement égoïste, c'est un amour de soi qui exclut l'autre.
Mais on peut avoir un amour de soi qui ne l'exclut pas.
Il y a aussi un amour de soi qui ne l'exclut pas, parce que, comme disait Jean-Jacques Rousseau, la première passion qui révèle l'intime en tout homme, c'est la valeur de sa dignité. Et donc, si je suis conscient de cette valeur, j'ai le droit de m'aimer moi-même.
Petite question, François. Vous êtes philosophe, et ce soir, on fait appel à vous comme philosophe. Est-ce que vous avez l'impression que la philosophie peut aider ceux qui viennent témoigner, par exemple dans la ligne de cœur, mais pas seulement, ceux qui osent à un moment donné dire que leur intime a été violé, que leur intime a été profondément blessé et que la reconstruction n'est pas ou pratiquement pas possible? Ou est-ce qu'on doit aller au-delà de la réflexion et de la philosophie, mener un combat, quelque chose qui ressemble à ça?
Bien entendu. Moi, j'ai écrit ce livre pour deux raisons. La première, c'est parce que, étant philosophe, j'ai essayé, au fond, de circonscrire les recherches de l'intime à travers plusieurs philosophes. Ils sont pas très nombreux qui en ont parlé, parce que la philosophie, là, s'en occupe moins, dans la mesure où l'intime est toujours quelque chose de très subjectif. Et donc, on ne peut pas universaliser une théorie de l'intime complètement. D'un autre côté, évidemment, si des gens sont victimes de leur dignité bafouée, il s'agit de les aider et donc de combattre les causes qui les font souffrir. Voilà ce que je répondrai.
Bien sûr, bien sûr. Et en cela, vous êtes bien au-delà de la simple réflexion philosophique. Hein. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire en conclusion, François, que la souffrance et la joie sont... disons, la manifestation de l'intime, comme le dit un auteur de SMS que je lis à l'instant.
Ah oui, il n'y a rien de plus intime que ces deux valeurs que vous soulignez et qui sont tout à fait à l'opposé. La souffrance est toujours intime. Pourquoi ? Parce que quand je souffre, il y a une blessure de mon intimité et je la vis, je la ressens, je ne peux pas me séparer de cette souffrance. Si vous prenez le cas du viol, par exemple, qui est une souffrance psychique extrêmement profonde, qui marque quelqu'un pendant plusieurs années avant qu'il ne puisse parler, c'est parce qu'il y a un traumatisme très fort qui mutile sa dignité, c'est-à-dire son intimité. Il ne peut pas parler parce qu'il a honte, comme ce garçon qui avait faim tout à l'heure, là, et qui est aidé par cette dame. Cette honte de l'enfant, par exemple, violé, fait qu'il ne peut pas en parler, et qu'il se sent lui-même coupable, parce que l'abuseur, qui a une autorité sur lui, il croit que c'est la norme. Et donc, il croit que c'est lui-même qui est coupable, et par conséquent, c'est ça qui est très grave dans le viol. Il y a une inversion totale des valeurs. La victime se sent coupable à la place de l'abuseur qui le mutile. Et ce qui fait qu'il y a une sorte de paralysie intérieure. Et donc, toutes les personnes qui ont passé par les viols comme Daesh, par exemple, les organisent et les institutionnalisent systématiquement dans l'esclavage des femmes, ce sont des formes de violence qui les marquent à vie.
Merci beaucoup François Gachou. Du reste, en conclusion de votre livre, vous évoquez, c'est-à-dire absolument, la négation de l'intime à travers les attentats de Paris auxquels vous avez assisté. Vous étiez à 200 mètres de tout cela et vous étiez sur place très rapidement et ça vous a inspiré une belle réflexion sur laquelle nous prendrons le temps peut-être un jour de revenir à lire absolument « Explorer l'intime au cœur de nos jardins secrets » aux éditions La Source Vive. Merci beaucoup François.
Je vous en prie, merci à vous aussi.
Bonne nuit.
Bonne soirée.
Vous aussi, 021 653 70 70 jusqu'à minuit.